Frères et sœurs, souhaitez-vous que nous passions 2-3 jours de plus ensemble? Ce serait pour moi une grande bénédiction. J'ai noté quand même, pour ne pas oublier les pensées très profondes que vous avez partagées, frères. Alors, je termine par la conclusion, et puis après, j'élabore un petit peu ma réponse en disant que je partage à 100% tout ce que vous avez dit. Pas du tout, parce que je veux mettre de la crème chantilly sur notre relation, pour que tout aille bien, mais de façon très honnête, je veux dire. Hein. Alors, je vais essayer de répondre à vous, et puis à ceux qui entendent votre question aussi, de façon structurée. Tout d'abord, quand vous parlez de la Bible, et qu'il y a eu donc... une sélectivité dans la constitution, un choix donc dans la constitution du canon par la communauté d'Israël tout d'abord, ensuite accueillie par le Christ qui lui a choisi de dépendre de ce canon, il n'a jamais remis en question, il y fait allusion plusieurs fois en structurant le canon, hein. Les récits, les écrits, etc., les prophètes, enfin bon, c'est exactement cela. Et ensuite, la communauté de l'Église primitive a aussi fait un choix, on sait très bien que l'apôtre Paul a écrit d'autres lettres. Et si un jour une découverte archéologique tout à fait extraordinaire, exceptionnelle, nous permettait d'avoir d'autres lettres de Pierre, de Paul, qui soient d'être authentiques, nous devrions, en tant qu'Église adventiste, refuser que ces lettres fassent partie du canon du Nouveau Testament. Elles seraient très riches pour nous d'enseignements, s'il était possible de savoir que c'était des lettres authentiques de Paul. Mais voilà. Alors vous avez parfaitement raison que, pendant de nombreuses années... on n'a pas du tout encouragé la communauté adventiste, surtout après la mort d'Ellen White, à faire cette même démarche. Et comme vous avez dit, donc je répète votre expression, dans un même sac, hein, on a un petit peu tout, etc. Et c'est tout à fait juste que, et je rebondis sur tout ce que vous avez dit vers la fin, après je parlerai au milieu de ce que vous avez mis en sandwich, sur les esclaves et leurs maîtres, etc. Il y a eu parfois à certaines étapes de l'Église adventiste, de son histoire, une absence de réflexion sur l'extension de l'inspiration d'Ellen White. Nous devons travailler sur ça. Alors, juste un petit témoignage, et après je reviens sur ce que vous dites, sur l'évolution de la pensée de l'Église. Si nous nous rencontrons une autre fois, ce qui serait pour moi un grand honneur, on pourrait avoir aussi plusieurs autres sujets naturellement, hein, mais parmi ceux-là, faire... tout un historique, c'est passionnant, sur l'histoire de l'interprétation d'Ellen White dans la communauté adventiste. L'histoire de la réception d'Ellen White. Comment est-ce qu'elle était accueillie? Comment son don prophétique était accueilli? Comment est-ce qu'il était défini? Quelle extension à son prophétisme? Et qu'est-ce que ça veut dire, prophétisme d'ailleurs? Et pareil, son inspiration au début, à l'époque donc juste post-millérite, et puis la jeune naissance de l'adventisme dans les années 1860, et ensuite après sa mort, etc. Il y a eu beaucoup, beaucoup de travail de fait là-dessus, et je vous donne juste un témoignage qui est à la fois sublime et à la fois très triste. En 1919, en pleine crise fondamentaliste, qui a donc affecté la communauté adventiste, je vous l'avais dit tout à l'heure, puisque le fondamentalisme protestant nord-américain, il n'est pas né comme ça, dans les choux, en quelques années. Il y a eu toute une fermentation, tout au début du 19e siècle, dans les milieux pré-millénaristes, à l'université de Princeton, qui fonctionnait beaucoup avec inspiration verbale, inspiration mécanique dans la Bible. Tout ça, ça a affecté quelques adventistes, mais minoritaire au 19e siècle, et la limitation de cela, c'est dû aussi à Ellen White d'ailleurs. Après la mort d'Ellen White, c'est donc en pleine crise fondamentaliste que Ellen White meurt. Et en 1919, 4 ans après la mort d'Ellen White, le président Daniels, qui avait été interrompu par le ronfleur, là, eh bien, convoque 50 délégués, qu'on a appelé donc cette convocation les Bible Conferences, donc de 1919 au mois de juillet, pour réfléchir à toutes vos questions, frères. Fantastique. Alors, elle est inspirée, mais ça veut dire quoi, ça? Parce que ma femme aussi, quand elle fait l'école du sabbat des bourgeons, elle est inspirée par Dieu. Et puis Mozart, Beethoven et Bach ont été aussi quelque part inspirés par Dieu. Et puis Jean-Luc aussi. Et puis votre question est inspirée par Dieu. Alors, ça veut dire quoi? Qu'Ellen White soit inspirée par Dieu, ça ne règle rien, ça. Il faut savoir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Ensuite, elle est prophète. Oui, mais Agabus est un prophète aussi dans le Nouveau Testament. Il prophétise qu'il va y avoir une famine, que l'apôtre Paul va être arrêté. Point final. Puis à côté de ça, on a le Pentateuque qui est inspiré par Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Et puis... Les protestants, au XVIe siècle, plus qu'à l'époque que maintenant, considéraient Luther aussi comme un prophète de l'éternel, non pas infaillible, etc. Ils savaient toutes sortes de choses, mais en pensant que vraiment il y avait là quelqu'un qui a réveillé, qui a bousculé l'humanité tout entière, hein, pour recentrer le message de l'évangile, leur bon prophète, etc. Alors tout cela est discuté, et l'inspiration verbale, etc. Et 50 délégués. Alors il a été objectif et il en a convoqué de différents milieux. Ça, c'est beau, ça. Après, je vais vous décevoir, mais ça, jusque-là, c'est très beau. Que ce président, en pleine crise fondamentaliste, ose discuter de ça, nature de l'extension aussi de la Bible et d'Ellen White, et ils ont posé des questions fabuleuses, fabuleuses. À la fin de ces conférences bibliques, une minorité parmi les 50 délégués a peur. Et se dit, oulala, parce que président Daniel souhaitait que tout ce qui a été dit là, tout le monde entier en bénéficie de cette fermentation, de cette discussion fantastique et très 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 courageuse sur la nature du prophétisme et l'extension de l'inspiration d'Ellen White. Alors est-ce qu'elle est inspirée dans le détail aussi, quand elle parle d'histoire, de science, de ci, de ça, et puis de ce que vous dites? Est-ce qu'on peut dire que tout ça c'est un fax, un email de Dieu, jusque dans le détail, ou est-ce qu'Ellen White est inspirée parce que Dieu lui montre des visions, non pas comme un DVD ou un film, mais des séquences très courtes, parfois un peu plus longues, où Dieu lui dit des choses, pas générales, mais très très essentielles et très profondes, mais qui risqueraient de rester à l'état de concept si Ellen White ne mettait pas certains détails aussi. Alors elle les a mis pour illustrer, etc. Ça, c'est ce que son fils William dit. C'est fort, ça. Les détails, mais ma maman n'a jamais prétendu qu'ils étaient inspirés par Dieu. C'était là pour illustrer le propos, etc. Elle fait des citations, etc. Alors ils discutent de tout ça. Une minorité se dit, l'Église n'est pas prête pour entendre ça. Nous risquons, si nous disons tout ça, de faire que nos membres d'église ne lisent plus les noix, qui ne comprennent plus rien sur l'inspiration, tout ça. Alors, Daniel et les délégués disent, mais c'est au contraire. Si nous disons ça, nous allons encourager une lecture beaucoup plus respectueuse de la réalité et de la plume d'Ellen White. Il y a même un frère Anderson, qui à ce moment-là, il pense à l'avenir et il se dit, oh là là. Vous ne voulez donc pas qu'on parle de ça dans les églises, dans les facultés, dans les écoles, dans les colleges? Et ce frère Anderson dit, et c'est tout à fait ce qui est arrivé entre nous soit dit, dans le silence sur ces choses, nous risquons une révolution dans l'adventisme. Nous risquons des secousses terribles, et ce sera dur, frères et sœurs. Et c'est ce qui est arrivé dans les années 70 et 80, aux États-Unis, puis ensuite ici, avec des frères qui ont lu des choses, qui ont eu accès à des sources, à des documentations, etc., qui ont lu des choses d'Ellen White, qui ont examiné différentes choses dont je vais aussi vous parler maintenant. Mais ça s'est fait dans la brutalité, alors que ça aurait pu se faire dans la douceur, dans le naturel. Ok, il y aurait peut-être eu des frères un peu déboussolés. Ça m'arrive de rencontrer des frères déboussolés quand moi-même, j'essaye de parler avec délicatesse et je ne suis pas toujours bien accueilli comme je suis accueilli à Bruxelles, vous savez. Hein, parfois, il m'arrive de dire, voilà, ben, je présente un texte ou je cite une expérience d'Ellen White. Il y a des gens qui me somment de m'arrêter de parler. Parce que sans me rendre compte, je bouscule peut-être leur façon de concevoir ce que c'est qu'un prophète et un être humain inspiré par Dieu. Et alors, j'ai des textes qui sont dans mon ordinateur, et telle fois, je suis tellement ému, comme une fois, une sœur en Suisse, qui, parce que j'avais dit qu'Ellen White raffolait de manger des huîtres, elle dit, c'est pas possible, frère, il faut que vous arrêtiez. Vous êtes en train de blasphémer, etc. Je dis, mais sœur, vous seriez peut-être intéressé de savoir à quelle époque elle a écrit ça. Parce que moi, j'ai sa lettre au centre de recherche Ellen White. Elle écrit à sa belle-fille, va me chercher des cagettes d'huîtres bien fraîches, je raffole de ça. Bon, c'est écrit dans un manuscrit, ça. Je doute que ce soit un email de Dieu qui lui ait dit d'écrire ça. Mais elle l'a écrit, ça. Alors la sœur, elle me sommait de m'arrêter, elle commençait à faire un scandale, et elle doutait de mon intégrité. Alors, il n'y a que ça que j'ai pu lui dire. Et j'étais tellement ému que j'ai oublié que j'avais le CD-ROM, là, dans mon ordinateur. J'aurais pu lui montrer le texte, parce qu'en plus, elle parlait anglais. Alors voilà, ça ne se passe pas toujours très très bien. Et donc, c'est arrivé, malheureusement, qu'après 1919, eh bien, pour ne pas faire scandale, les délégués, majoritairement passionnés que tout cela soit dit, partagé, pour la santé spirituelle des membres, eh bien voilà, des minutes ont été rédigées pendant ces Bible Conferences. Et vous savez quand est-ce qu'on les a découverts? En 1974, 55 ans plus tard, un archiviste qui faisait son boulot, hein, et qui tombe là-dessus. Alors le gars, hein, il n'a pas fait de cadeau. Hein. Sous la veste, et tac, il va chez l'imprimeur, et paf, publié. Alors bon, sur le plan déontologique, il a fait une erreur, mais il a contribué à ce que l'Église, le White Estate, etc., commence à dire, bon, il ne faudrait quand même pas qu'on en reste là, au silence. Donc si vous voulez, il y a une évolution à la fois dans la communauté adventiste, beaucoup plus ouverte à la discussion du vivant d'Ellen White, et même pendant la période fondamentaliste, en tout cas au niveau de la conférence générale, etc. Et le White Estate, lui, a pris l'héritage d'Ellen White et a favorisé, pendant plusieurs décennies, une approche promotionnelle d'Ellen White. Il faut faire connaître cette femme, il faut faire connaître ses écrits, lisez, lisez, donc favoriser la publication et la lecture. L'herméneutique, c'est venu beaucoup plus tard, hein. Et parce qu'il y a eu des secousses, justement, là, White State était coincé, et eh ben, il commence à se retrousser les manches et à faire de l'herméneutique, donc, c'est-à-dire une contextualisation, une recherche du contexte et à favoriser une réflexion. Et venue ensuite une troisième période, chaque période n'annulait pas d'ailleurs ce que faisait l'autre, parce que quand on a fait de l'herméneutique au White State, on continuait à faire la promotion. Et une troisième période qui est beaucoup plus récente, celle que moi j'appellerais la transparence, de dire tout, voilà, relation avec James, ceci, cela, on ne cache rien, on dit tout, 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 franco, comme ça, ah bien sûr, en s'adaptant en public aussi, hein, naturellement, il y a des fois où je passe à certains moments, je me dis, tiens, avec ce public-là, ce serait peut-être un petit peu dire, je dirais ça la seconde fois, lors de mon second passage. Alors je me dis, ben tiens, bon là. Et donc, aujourd'hui, bien, naturellement, nous sommes dans une période faste, parce que à la fois, on peut promouvoir la pensée, le patrimoine d'Ellen White, encourager les frères et sœurs à un travail de contextualisation, et on dit tout. Et moi, à mes étudiants, je dis tout, et je dis 10 fois plus de choses que je vous dis. Alors, naturellement, vous touchez aussi une question très importante, c'est l'inspiration. À Collonges, nous avons 2 cours sur Ellen White. Un premier qui est donné à des 3e année. Avant, ça se donnait en 1re année, mais on a corrigé ça, parce qu'on a pensé que ce serait mieux que nos étudiants en théologie partent des fondements du christianisme et petit à petit, qu'on les fait évoluer dans la spécificité, l'identité adventiste. C'est pour ça qu'Ellen White est étudiée en 3e année seulement. D'abord la Bible, c'est plus respectueux de la pensée d'Ellen White. Alors en 3e année, c'est la biographie, où je raconte aussi les choses comme avec vous aujourd'hui, et la biographie, le message, certains aspects du message. Et en 4e année, c'est tout un cours d'herméneutique sur les écrits d'Ellen White, et pendant plusieurs mois, parce que ça dure tout un semestre, pendant plusieurs mois, on travaille sur l'inspiration, qui n'est pas une chose simple. Alors je leur dis dès le début, et je leur dis petit à petit aussi, ne pensez pas les amis, je m'adresse aux étudiants, et donc bien sûr à vous aussi, ne pensez pas qu'à la fin du semestre, tout sera très clair, et que paf paf, dans une boîte là, vous aurez Jean-Luc qui vous a dit, alors voilà comment elle est inspirée, tac tac tac, et c'est fini. Non, ça coûte de travailler sur l'inspiration d'Ellen White. Ça demande de l'humilité, ça demande du courage, et puis effectivement, comme vous l'avez très bien dit frère, comme tout est dans un même sac, enfin dans l'esprit de plusieurs personnes, nous avons nous aussi à faire un travail là-dessus. Il y a des manuscrits, il y a des œuvres publiées. Ce n'est pas la même chose. Ellen White, alors comme je ne fais pas le cours sur l'inspiration cet après-midi, peut-être l'année prochaine avec vous, mais comme je ne fais pas le cours sur l'inspiration, je ne peux pas vous montrer toutes les déclarations d'Ellen White où elle dit « Attention, attention !» Elle parle à des frères qui pensent qu'à chaque fois qu'elle éternue, c'est les 10 commandements. Elle ne dit pas ça, hein, bien sûr. Mais en tout cas, quand elle dit des choses sur la pluie et le beau temps, quoi, on va dire. Hein. Passe-moi le sel, tiens. Le Seigneur a dit à Sir White, dis, passe-moi le sel. Elle dit, passe-moi le sel. Hein. Ah, il y avait des frères qui réagissaient comme ça. Elle dit, mais c'est terrible, c'est une hérésie. Je n'ai jamais prétendu qu'à chaque fois que je parle de choses ordinaires, voilà, parce que c'est des choses très classiques. Bon, c'est plutôt les pasteurs qui connaissent ces informations, mais Ellen White fait des descriptions. Alors elle décrit Paris, allez voilà, pendant le massacre de la Saint-Barthélemy. Alors elle se trompe d'église, elle se trompe d'église. Alors il y a des gens qui disent, mais c'est pas possible, je peux plus être adventiste, puisqu'elle s'est trompée d'église, faux prophète, donc faux prophète, je peux plus être adventiste dans une église qui pense que cette femme a le don de prophétie. Alors il y a des gens qui, comme ça, virent tout d'un coup, en 3 secondes, ils ne sont plus adventistes. J'en rencontre parfois sur Internet des personnes comme ça. Au lieu de changer leur compréhension du prophétisme et de l'inspiration, qui, en effet, n'est pas une inspiration du détail, hein, ça il faut le dire, ça peut l'être naturellement, il ne faut pas non plus être fermé à ça, Alors, je dis, c'est pas possible, parce qu'ils ne veulent pas changer leur théologie de l'inspiration et leur théologie, donc, du prophétisme. Et donc, elle n'est pas prophète. Pour prophète, c'est une fausse prophétesse, bon, voilà, etc. Alors, c'est très important, beaucoup d'universitaires aujourd'hui adventistes, de responsables adventistes au White Estate, comme dans les universités adventistes, comparent davantage l'inspiration d'Ellen White et des gens comme George Knight et d'autres à... parce que ça correspond à la réalité de ce qu'elle dit, naturellement, hein. À un grand voyage en avion. Moi, si je suis au-dessus de Bruxelles ce soir, il fera peut-être nuit, je ne verrai pas les arbres ici, là. Je ne verrai pas l'harmonium ici, mais je verrai Bruxelles. Et je sais qu'il y a des êtres humains dans Bruxelles. Et je verrai des choses fantastiques de la haute Bruxelles. Mais vous pourriez douter de mon voyage en avion de ce soir, si vous étiez fondamentaliste, parce que vous diriez, oui, mais tu n'as pas vu le mannequin piece de l'avion. Alors, moi, je pourrais vous dire, mais j'étais pourtant en avion. Pourquoi tu doutes que j'étais en avion? Et je pourrais me mettre à parler du mannequin piece, parce que, en disant, ben voilà, à Bruxelles, il y a le mannequin piece. Alors, je pourrais dire, ben le mannequin piece, il a la tête en haut comme ça. Eh ben non, il a la tête comme ça. Et je me tromperais. Peut-être parce que je l'ai lu quelque part. Et donc, Ellen White, parfois, a mal filtré certaines informations qu'elle a lues. Qu'elle a lues, ou que Uriah Smith lui a communiquées en matière d'histoire. Alors, c'est vrai. Et ça coûte ça. Ça demande de l'humilité, de la reconnaissance, peut-être même de la repentance théologique, comme Fritz Guy le dit. Fritz Guy, qui est un grand cerveau de l'adventisme, hein, un grand universitaire. Fritz Guy, sa famille est suisse, que vous connaissez sans doute. Un grand, grand cerveau comme ça. Un cerveau si grand qu'il n'arrive pas à rentrer dans cette église. Et il écrit beaucoup sur l'herméneutique et sur l'histoire. Et c'est un homme qui aime l'adventisme. Et il dit ça, il parle de repentance théologique parfois. Ça coûte ça, ça demande de l'humilité. Et donc, effectivement, devant l'évidence, devant ce qu'Ellen White elle-même dit, alors il faut apprendre à réfléchir sur l'extension, sur la nature de cette inspiration et de son prophétisme. Pourquoi Ellen White a-t-elle corrigé des témoignages? Pourquoi Ellen White a-t-elle corrigé la tragédie des siècles? Elle l'a publiée en 1888. Pas après Minneapolis. La tragédie des siècles est un livre pré-Minneapolis. Si elle l'avait écrit après, elle ne l'aurait pas du tout écrit de la même manière, d'ailleurs. Hein. Ça, c'est clair et net. Je fais travailler les étudiants là-dessus. Des chapitres de la tragédie des siècles qui parlent d'un thème, et je leur dis, regardez ce même thème écrit 20 ans plus tard, et dites-moi comment est l'évolution de la pensée d'Ellen White là-dessus. C'est très très beau, très riche. Bon, elle a écrit ça en 88, mais enfin, elle a écrit avant, pardon. Il y a toute une époque de gestation, publiée en 88. Ensuite, révisée et republiée en 1911 avec une liste d'errata. Et pas une liste d'errata qu'on lui a volontairement soumise par force agressivité. C'est elle qui a demandé cette liste. Elle a contacté des pasteurs, des historiens, et même un peu en Europe aussi, paraît-il. Pour lui dire, alors voilà, moi je ne suis pas une historienne, j'ai lu des choses, Uriah Smith m'a communiqué des choses, je ne prétends pas du tout qu'à chaque fois que je parle d'histoire, je suis une experte, hein, pas du tout, du tout. Ce n'est pas du tout le but de la tragédie des siècles, elle dit, mais il y a certainement des erreurs historiques dans la première version, s'il vous plaît, faites-moi la liste de tout ça et on corrigera. Elle aurait fait 5 tragédies des siècles, il y aurait certainement eu encore du travail à faire. Hein. Alors aujourd'hui, des chercheurs font exactement le même travail qu'elle a demandé, en matière de diététique, d'histoire, de science aussi. Donc il y a eu une chose qui n'est pas toujours simple et facile à accepter parmi nous parfois, une évolution de la pensée chez Ellen White. Elle avait 17 ans, et ensuite elle a eu 88 ans. Et donc, son évolution de la pensée, ça a été naturellement une évolution de reformulation, ça c'est encore pas très difficile à accepter, une évolution de maturité, ça va encore, une évolution d'enrichissement, quelque chose qu'elle dit comme ça et ensuite elle développe comme ça, et parfois une évolution en disant « j'ai fait erreur ». Donc je dis ça parce que je croyais ça, alors c'est vrai de la « shut door », donc la porte fermée, mais d'autres choses aussi, mais qui ne touchent jamais à la substance de son message. Ça c'est aussi très intéressant. Mais donc, il y a des experts aujourd'hui adventistes qui travaillent très fort, très fort. Il y a un professeur de Walla Walla College qui s'appelle Alden Thompson, qui est donc un grand spécialiste dans l'adventisme de l'évolution de la pensée d'Ellen White, qui a publié des choses, pas en français, hélas. Ça a été traduit auf Deutsch, mais pas auf Französisch, hélas. Enfin bon, alors, tout à l'heure, en vous écoutant, je pensais aussi à des compilations des frères et sœurs qui lisent des compilations, mais qui ne réalisent pas, parce que peut-être la communauté adventiste internationale ne les a pas aidés à comprendre que dans les compilations, il y a un mélange de manuscrits et d'œuvres publiées. Alors, ils tombent sur un passage, alors ils vont voir la note numéro 5, Patriarche et Prophète, page 412. Note 6, manuscrit 8, 1892. Pour eux, kiff-kiff, c'est le même genre d'autorité. Pas du tout dans la pensée de l'auteur, par contre. Alors parfois, le compilateur, lui, qui, ça c'est typiquement américain, en Europe, ça ne se passerait pas comme ça, une compilation, le titre, alors le titre et l'auteur, Ellen White. Moi, je lis beaucoup de compilations de grands auteurs qui ont disparu aujourd'hui, catholiques, protestants, juifs. Et lorsque des maisons d'édition font des compilations aujourd'hui, donc des morceaux choisis, ils ne mettent pas le nom de l'auteur sur la couverture. Ou s'ils le mettent, ils mettent aussi le nom du compilateur, en disant que c'est donc un travail de relecture et de sélectivité, de choix, pour ne pas induire en erreur le public. Alors, bon, je pardonne à nos frères américains parce que c'est la culture. Hein. On met Ellen White et on met Le Voyer Chrétien. Ben oui, mais ce n'est pas un livre d'Ellen White. C'est un livre du compilateur. Rempli de citations d'Ellen White, par contre. Parfois très courtes, et ça c'est dommage. Et sans note de bas de page. Ce que font beaucoup d'éditeurs européens. Note de bas de page, c'est capital ça. Comment savoir de quoi elle parle? Alors bien sûr, on met manuscrit 3, 1802. 1822. Enfin non, pas 1822, parce qu'elle n'écrivait pas, mais 1892. Mais qui c'est qui va aller à Collonges voir le manuscrit 3 en 1892? Alors, il y en a qui le font, qui m'envoient des emails et tout ça. C'est fabuleux. Et moi, je vous encourage à le faire. Mais ce serait tellement plus simple de le mettre en note de bas de page. Donc, il y a un travail sur l'évolution de la pensée d'Ellen White qui est très, très, très important. Alors, en effet, Darwin, les 6000 ans, quand vous dites qu'elle est prisonnière, d'une certaine façon... Alors, moi, je n'emploie pas ce mot-là parce que parfois, il peut être mal perçu, prisonnière... Parce que c'est pas du tout dans votre cœur, hein, ce que je vais dire là, mais parfois, en entendant ce mot-là, certaines personnes réagissent en disant « Mais quand même, Ellen White était capable de changer d'avis. Hein. » Dans l'idée de prisonnière, on entend parfois des gens dire « Non, non, elle n'a jamais changé d'avis. » Ah si. Alors, moi je dirais plutôt qu'elle était conditionnée culturellement par des écrits, par des lectures. Ouais, ouais, non, mais je vous ai parfaitement à 100 milliards pour cent compris, sans problème. Très très bien, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Et donc conditionné culturellement, et en effet, et dans, sur d'autres sujets c'est la même chose. Donc il y avait des théories sur les généalogies bibliques. Aujourd'hui on a travaillé beaucoup sur les généalogies bibliques et on voit qu'il y a des trous. C'est pas une succession absolument. Alors, bon, c'était une grande mode à cette époque là. Et donc elle emploie le langage de son temps qu'elle conteste parfois. Elle prend des distances avec le langage de son temps. Donc, au risque, bien sûr, de passer pour un hérétique aujourd'hui, eh bien, les frères et sœurs de la Conférence Générale du White Estate ne pensent pas que c'est Dieu qui lui a dit, eh bien voilà, ça fait 6000 ans, ça fait pas 6001 ans. 6001 ans, tu es hérétique, Hélène. Si tu mets 6000 ans, c'est bien. Et non, bien sûr que non. L'âge de la Terre, enfin, voilà. Alors, naturellement, il faut pas non plus tomber dans l'extrême inverse, de se dire, puisque peut-être cette expression, et moi je le pense que c'est vrai, c'est donc culturel, alors on en déduit que la Terre a des milliards d'années et que l'homme a des milliards d'années d'existence. Alors, il faut être très très modeste, très humble devant toutes ces choses. Mais en effet, le White Estate n'encourage pas dans... une naïveté, si vous voulez, qui consisterait à ce que chaque détail soit perçu comme un fax de Dieu. Et son fils, William, nous a beaucoup aidé à comprendre ça. Il a absolument... Bon, elle aussi, dans ses écrits, c'est vrai, mais son fils William, qui a beaucoup accompagné sa maman dans la publication et tout ça, nous encourage à considérer que, en effet, elle n'est pas une théologienne, une grammairienne, une historienne, une scientifique, etc. Cependant, parfois, eh bien, elle se met à décrire et elle fait ça de tout son cœur, en précisant bien dans l'introduction des livres, parfois, qu'il ne faut pas prendre ses citations trop au sérieux. Elle le fait de façon illustrative. Et ça, c'est quelque chose qu'il insiste beaucoup, William, là-dessus. Alors, dans la tragédie des siècles, par exemple, nous n'avons pas de chance, nous, francophones, parce que nous n'avons pas l'intégralité de l'introduction d'Ellen White dans ce livre. Il y a eu des coupures, parfois, qui ont été faites. C'est malheureux, ça. Mais en anglais, on voit une Ellen White qui dit, mais voilà, moi, j'écris ça, mais attention, hein, quand je parle d'histoire, c'est pas du tout le but de ce livre. Bien sûr, il faut que je retrace le cadre historique des choses que Dieu m'a révélées. Mais Dieu m'a révélé des choses, mais Dieu ne m'a pas révélé tous ces détails. Alors, pour mettre le contexte historique, je fais appel à des documents, des historiens, etc., qui ne sont pas infaillibles. Donc, prenez ça avec des distances, elle nous le dit. Pourquoi est-ce que le traducteur a fait des coupures? Je ne le juge pas, il n'est plus de ce monde. Mais lui aussi était conditionné par une culture, et ça le dérangeait qu'Ellen White écrit ça, j'imagine. Ou alors, c'est qu'il s'est assoupi peut-être ce jour-là. On va être gentil. Alors, bien entendu, quand Ellen White dit que Dieu ne leur pardonnera pas, là, ça demanderait beaucoup de temps pour répondre à cette question, parce que Dieu est généreux et pardonne. D'accord. Maintenant, moi, je ne suis pas universaliste. Je ne crois pas au don de Dieu, à la gratuité du pardon de Dieu, quelle que soit la réponse de l'homme. Dieu, dans sa miséricorde, vous l'avez vu, Ellen White le dit, et Romains 2 le dit aussi, Dieu, dans sa miséricorde, décode, lit dans la vie d'êtres humains l'évangile, alors que ces gens adorent Dieu sans connaître l'existence de Dieu. Ça, c'est Dieu qui décode ça. Je suis incapable, moi, de décoder ça. Mais je suis complètement convaincu qu'il y a des êtres humains dans lesquels Dieu n'arrive pas, avec toute sa générosité, à décoder cela. Autant Dieu nous encourage, nous, à assurer le salut de tous ceux qui se repentent, enfin, assurer, les encourager dans l'assurance du salut, autant Dieu nous encourage à pardonner, hein, comme il pardonne, autant, j'espère que je ne vous choque pas en disant ça, je ne peux pas être convaincu par l'idée que Dieu pardonne tout le monde, Adolf Hitler et quantité d'autres gens. Je dis Adolf Hitler parce que je cristallise là une énormité humaine, indigne d'avoir mis les pieds sur terre. Mais je ne suis pas opposé à l'idée que Dieu dise je voudrais, mais je ne peux pas. En dépit de la croix où Dieu nous dit pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Mais ça, c'est dans le même esprit que ce que nous avons lu là. Dieu et le Christ en train d'agoniser est capable de dire que ces personnes qui sont en bas là, eh bien, je mets le pardon là-dessus. C'est le Christ qui dit ça. Mais Jean-Luc ne peut pas faire ça de tous les êtres humains qu'il rencontre parce que Jean-Luc ne lit pas les cœurs. Alors qu'Ellen White dise que certaines personnes, il n'est pas possible que Dieu les pardonne, je ne suis pas devant un texte qui me choque du tout. Par contre, dans le texte que vous avez dit tout de suite après, où il est question d'hommes qui, parce qu'ils n'avaient pas, enfin tout ce que vous avez résumé sur les esclaves, étaient vraiment considérés comme, comment est-ce que vous avez dit, moins que des brutes. Alors là, je peux vous assurer qu'Ellen White a énormément évolué dans cette conception-là. Ah voilà, mais c'est ça, c'est ce que j'allais justement vous dire, et j'avais mis un gros titre là, quelle est la date de cet écrit-là? Alors, juste comme ça pour vous choquer encore une petite minute, un jour, mais elle a corrigé ça, hein. Quoique, il faut faire aussi, quand on lit quelque chose, non seulement la date, mais le lectorat. À qui parle-t-elle? C'est la même chose dans la Bible, d'ailleurs, hein. Nous sommes beaucoup renseignés sur le public à qui tel prophète, tel patriarche, tel apôtre et Jésus parlent. Elle écrit à un petit gamin qui a 6 ans. Elle lui dit cette énormité qui vous empêchera de dormir ce soir. Mais ce qui vous empêchera, ce qui vous permettra de dormir, donc la tisane de fleurs d'oranger et le tilleul, c'est le second texte. C'est que, par la suite, elle a contredit ça, en disant qu'il fallait surtout pas dire des choses pareilles. Alors le café, et ensuite la tisane de tilleul. Le café, c'est que, elle a dit à cet enfant, Dieu n'aime pas les enfants qui font des bêtises. C'est une calamité, ça. Alors, bien sûr, elle n'a pas publié ça, hein. Soyez rassurés. C'est un manuscrit. Ceci dit, alors bon, après, elle a dit, surtout, n'enseignez pas à dire que Dieu n'aime pas les enfants lorsqu'ils font des bêtises. Et ça, par contre, alors, elle l'a publié. Bon, donc, il y a une évolution dans cette pensée, c'est clair. Et ça n'a pas attendu longtemps pour qu'elle change d'avis, mais en réfléchissant bien, et ça aussi c'est un travail donc d'étude, de contextualisation, d'interprétation d'herméneutique, le public à qui elle parle. Vous savez que moi, quand je parle à mon fils Kevin, qui a 8 ans, 9 ans mercredi prochain, 9 ans mercredi prochain, déjà, il m'arrive, dans le souci d'être compris, d'utiliser parfois sa façon de parler, et en me réécoutant après, je me dis, oh là là là, mais la façon dont j'ai parlé, c'est hérétique, c'est pas bien. Donc j'imagine, alors d'abord c'est un manuscrit, ce qui me rassure, il y a de la place pour des opinions personnelles, mais en plus, parlant à cet enfant, il n'est pas certain, elle n'est plus là pour nous dire le contraire, hein, mais il n'est pas certain qu'elle ait réellement pensé « Dieu n'aime pas les enfants lorsqu'ils font les bêtises ». Peut-être avait-elle dans le cœur, bon, peut-être que vous allez dire « je suis trop gentil », mais en tout cas, je lui accorde le bénéfice du doute, penser que Dieu n'aime pas les bêtises, et Dieu est triste, tu sais, mon chéri, quand tu fais des bêtises, ça touche Dieu, ça, il n'aime pas ça. Alors, peut-être que, voilà, bon, ça, c'est Jean-Luc qui essaye de prendre la défense d'Hélène. Peut-être que j'ai tort de prendre la défense d'Hélène. Mais en tout cas, bon, il y a de la place pour l'évolution chez cette femme, et ça, il faut vraiment le savoir. Qu'elle soit prisonnière de son temps, conditionnée culturellement, c'est indiscutable, ça. Indiscutable. Victime aussi, bien sûr. Et très honnête et très sincère, malgré cet enfermement culturel. Ceci dit, par rapport à des contemporains d'Hélène White, qui ont écrit aussi, et qui eux aussi étaient, conditionnée culturellement, je la trouve très souple dans sa volonté de montrer qu'elle change d'avis. Et ça, c'est très important. Parce que dans les milieux qu'elle pouvait fréquenter, dans certains autres milieux très conservateurs, eh bien, un chat, c'est un chat. J'ai dit ça, je ne change plus d'avis. Et donc, elle a encouragé la communauté adventiste à grandir dans la connaissance de la vérité, mais elle a incarné cette possibilité de changer d'idée, de changer d'opinion. Alors naturellement, la conversation que nous avons depuis 20 minutes là, elle n'est pas du tout facile pour certaines personnes. Donc, quelle est la nature de l'inspiration d'Ellen White? Eh bien, ça demande beaucoup de temps. Ce n'est pas quelque chose qui se règle à coup de... Alors, Jean-Luc, 2 et 2, ça fait 4, ou est-ce que 2 et 2, ça pourrait faire 3,9 ou 4,1? C'est pas ça du tout. C'est riche, c'est complexe. C'est très complexe. Alors, naturellement... Heureusement que la position de l'Église adventiste, du rapport entre la Bible et Ellen White, est très claire. L'autorité, c'est la Bible. L'adventisme croit en l'inspiration des écrits d'Ellen White. Quoique, vous voyez, j'emploie un terme là aussi très conditionné. C'est ce que je commence à dire à mes étudiants en début de semestre. On dit les écrits d'Ellen White. Ça ne veut rien dire, ça. Est-ce que tu crois en Ellen White? Ça ne veut rien dire, ça. C'est beaucoup plus complexe que ça. Hein, de quoi parles-tu? Hein, vous imaginez quelqu'un, on fait des études bibliques. C'est quelqu'un qui vient de, je ne sais pas, comme moi, du catholicisme, et on fait des études bibliques avec cette personne. Alors, on étudie les dons spirituels à un moment donné. Combien de temps cette personne, au moment du jour J de son baptême, combien de temps aura-t-elle eu pour assimiler cette étude biblique? Lire Ellen White? Arriver à la conviction que cette femme est inspirée, prophète? Et avoir bien compris ce que signifie prophétisme aussi? Et inspiration. Alors le jour J du baptême arrive, et donc on baptise. Et puis le pasteur, là j'invente une bande dessinée, hein, Walt Disney. Le pasteur pose une petite question en douce à son baptisé là. Ça va, Ellen White, t'es au clair? Quand tout à coup, le baptisé interrompt la cérémonie. Alors que le pasteur avait déjà la main levée comme ça, là, et qu'il allait prononcer la formule trinitaire, et le baptiser de dire « Tu entends quoi par inspiration, Jean-Luc? Tu entends quoi par prophétisme ?» Alors, attention à ne pas manipuler les gens non plus, là. L'autre jour, j'ai montré à mes étudiants un texte de John Andrews qui date de 1870, qui est très équilibré. Très équilibré. Où John Andrews... C'était au début de l'adventisme, donc. Hein. L'Église adventiste n'a que 7 ans d'existence. Et donc, il publie 20 articles sur le rapport entre la Bible et Ellen White. Et donc, il encourage l'Église à ne absolument pas identifier le christianisme des gens en fonction de leur réception d'Ellen White ou pas. Et la condition d'entrée aussi. C'est venu beaucoup plus tard dans l'histoire adventiste que dans... Les questions baptismales, le nom d'Ellen White figure. Et ça, il y a des gens qui ne le savent pas. Quand je vais dans les pays de l'Est, ils ignorent complètement ça. Alors, je leur dis, mais ouvrez-moi votre manuel d'église. Alors, parfois, ils peuvent me sortir un manuel d'église de 1950. Alors, je dis, non, c'est pas celui-là. 2006, donc la conférence générale de Saint-Louis. Le nom d'Ellen White n'apparaît pas là. On parle de don de prophétie. Et comme un signe aussi eschatologique, pas de problème, donc de la fin des temps. Hein. Le nom d'Ellen White n'apparaît pas. Au début du manuel d'église, le nom d'Ellen White n'apparaît pas non plus dans les questions baptismales. Il apparaît à une période très très courte. Et ensuite, bien sûr, comme il n'était pas là au début, on l'a enlevé. Alors certains vont dire apostasie, apostasie, au nom de quoi disons-nous apostasie? Est-ce que vraiment les gens qui sont candidats au baptême nous disent oui? Vous croyez en Ellen White ou pas en Ellen White? Ils nous disent oui, mais interrogez-les et faites appel à l'intégrité. C'est parce qu'ils ont envie de nous rejoindre et qu'ils ont envie vraiment d'être baptisés, qu'ils ferment les yeux et qui, comme quelqu'un qui n'aimerait pas quelque chose, mon fils n'aime pas les épinards, alors il avale les épinards et puis voilà quoi, pour avoir le dessert. Mais cette personne est-elle mature, vraiment? Alors que la personne est baptisée le 21 juin, on a fait l'étude biblique le 15 mai. Au meilleur des cas, à Pâques, quoi, on va dire. Ce n'est pas le jour où on rencontre la personne. Alors, le 15 mai, les dons spirituels. Et puis, notre devoir, John Andrews le dit, et il a raison, c'est de prévenir la personne qu'elle va rentrer dans une communauté dans laquelle une grande majorité d'êtres humains croient dans le prophétisme de cette femme. C'est tout à fait normal et intègre de prévenir cette personne. Et il nous dit que nous invitons les gens à en faire un sujet de prière et à lire les écrits de cette femme. Point, stop. Et c'est tout, selon John Andrews. Il a raison. Donc dire, alors, Ellen White, frères et sœurs, c'est de la manipulation ça. Nous exigeons de quelqu'un quelque chose qui n'est absolument pas mûr pour comprendre. Ou alors, c'est que cette personne a eu une préparation, parce que peut-être c'est un enfant d'adventiste, ou quelqu'un qui soit être trop prétentieux, ou qui a eu personnellement une lecture et un regard sur cette femme. J'ai donné des études bibliques une fois à une femme qui, je n'avais jamais parlé d'Ellen White, mais parfois j'avais distribué un livre, et une personne un jour me dit « C'est quand même impressionnant cette femme, hein ? Et vous les adventistes, vous pensez quoi de cet auteur ? On dirait un peu un prophète, hein ? Moi j'avais rien dit du tout. » Alors il y a des gens peut-être exceptionnellement sensibles, mais ce n'est pas en 15 jours, 3 semaines, 5 semaines que ces personnes vont acquérir cette maturité. Donc, comme à mes étudiants, je ne peux pas vous dire que ce soir, quand je vais reprendre l'avion, les choses seront toutes réglées. Mais je remercie Dieu si cette conversation que nous avons suscite chez vous une recherche, des questions. Et peut-être aussi... changer d'opinion peut-être, quoi. Soit peut-être d'avoir été trop intégriste et que ce modeste passage remette en question cet intégrisme. Et puis peut-être certains d'autres parmi vous auront peut-être vu tellement de fanatiques que ça les aura découragés. Mais ça, c'est pas qu'avec Ellen White que ça peut se faire, hein, par la Bible aussi. Il y a des gens qui écœurent les gens de la Bible. Moi, j'en connais, hein. Des gens, c'est plutôt vrai en dehors de l'adventisme. Alors il faut surtout pas me parler de ce livre, hein. Parce qu'ils ont le souvenir d'hommes et de femmes qui ont fait du mal et qui ont blessé avec la Bible.